chaque premier samedi du mois, entre 12h et 13h, sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 FM, vous avez rendez-vous avec Onde de Chine, l'atelier radio des étudiants chinois de Lille. Onde de Chine, une émission interculturelle pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre. Retrouvez toutes les émissions et les compléments d'information sur www.ondedechine.fr. Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque premier samedi du mois, j'ai le grand plaisir de vous présenter l'émission Onde de Chine. Aujourd'hui encore avec Guogang Han. Bonjour Guogang.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on a prévu un thème ambitieux, complexe, complexe à traiter, puisqu'il s'agit du Parti communiste chinois.
Oui, 101e anniversaire.
Voilà. Donc l'année dernière, c'était la fête des 100 ans du Parti communiste.
Centenaire, ouais.
Voilà, donc un an de plus. On va peut-être revenir, si c'est possible, à la source, à la genèse de ce Parti communiste chinois.
Oui.
On va faire un petit pas en arrière de 100 ans, 101 ans dans l'histoire.
Oui.
Et on va se mettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Donc à l'époque, donc il y a plus de 100 ans maintenant, 101 ans, il y avait déjà un parti communiste en Union soviétique, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Et donc l'idée d'un parti communiste chinois est venue de quoi ?
Alors, donc, ça c'est l'histoire qui vient de 1919, donc c'est le mouvement de jeunesse chinoise. Et à partir de ce mouvement social, et la pensée du communisme introduite en Chine par quelques professeurs de l'université de Pékin. Mm-hmm. Donc, le président Mao, à l'époque, il était à l'université de Pékin en tant qu'assistant documentaliste dans la bibliothèque. Ensuite, M. Chen Duxiu, on dit c'est lui qui a créé la partie communiste chinoise. Il a créé un revue, s'appelle New Jeunesse, voilà, Nouvelle Jeunesse. Donc, il commençait à organiser ses mouvements. Et bien sûr, donc, en appuyant sur l'aide et l'orientation, direction de Staline soviétique, à l'époque, on dit que c'est le mouvement communisme troisième. Voilà. Mm-hmm. Donc, quand toutes les conditions sont prêtes, et ils ont créé en juillet. Généralement, donc, ce n'est pas le 1er juillet, c'est le 23 juillet. 1921.
Alors, je suis allé à Shanghai où il y a une maison, enfin un espace, oui, une maison, où c'est marqué « Ici est né le Parti communiste chinois ».
Oui, tout à fait, parce que ces maisons, ça, à Shanghai, et Huangpilu, c'est la rue de Huangpi, c'est au début, la réunion choisit ces lieux pour organiser le premier congrès du Parti communiste chinois. Et c'est lieu qui est dans la concession française.
Oui, alors c'est vrai qu'ailleurs c'était plus compliqué. Là, ils ont trouvé ce lieu qui était un petit peu protégé, peut-être.
Bah, c'est dans la concession française, bien sûr, c'est protégé. Mais par contre, quand il a fait la réunion préparatoire, il y a policiers qui arrivent. Il a trouvé il y a des gens un peu bizarres qui se trouvent, une dizaine de personnes qui discutaient. Et après, c'est des personnes qui ont annoncé à la commissariat de police. Mm-hmm. Du coup, donc, les policiers qui sont arrivés, et puis les dizaines de personnes, ils sont tous partis. Mm-hmm. Ils partent dans le sud de Shanghai, passent par Jinshan, et après à Jiaxing dans la province de Zhejiang. Finalement, ils ont réussi à trouver un lieu. C'est un lieu, c'est très discret, c'est dans un bateau au lac.
Ah oui. On peut peut-être rappeler le contexte politique de l'époque. C'était la République de Chine.
Voilà. C'est-à-dire donc fin 19e siècle. Et l'impératrice Cixi, Cixi, envie de faire réforme de la Chine en appuyant sur le système Angleterre et les Japonais. Donc, 18e siècle jusqu'au 19e siècle, il y a deux guerres en Chine. Première guerre sino-japonais, deuxième guerre, c'est les Japonais-Russes. C'est tous sur le territoire chinois. Mm-hmm. Par contre, c'est les Japonais qui ont réussi. Mm. Donc, cette affaire qui frappait beaucoup à l'impératrice Cixi, il a envoyé des ministres au Japon, en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, et pour apprendre comment on peut transformer. Finalement, ils ont préparé un document, un dossier pour réformer le politique, c'est-à-dire le système administratif de la Chine. Mm-hmm. Ce projet, donc, d'après certaines sources historiques, doit être réalisé en 1913. Mm-hmm. Mais par contre, 1911, c'est très tôt, il y a révolution, on dit c'est bourgeoise, dirigée par Sun Yat-sen, qui renversait... 1911, Sun Yat-sen renversait le système féodal de dynastie Qin. Mm. Et après, du coup, la Chine est devenue un petit peu chaos partout. Mm. Et Mao Zedong, à l'époque, dans sa propre province, Hunan, a organisé des mouvements politiques, parce qu'à l'époque, pensée communiste introduite en Chine, on trouvait donc c'est un progrès, c'est une pensée progrès, parce qu'il demande beaucoup de classes ouvriers, classes s'appellent prolétaires. Voilà, prolétaires, voilà. Prolétaires.
Le prolétarien.
Prolétarien, voilà. Donc classe prolétarien, et parce que c'est clair, donc fin 19e siècle, la Chine est tellement pauvre. Au sein de la société populaire. Donc, les jeunes envie de révolte, par exemple Mao Zedong, à l'époque, donc, on dit c'est leur anti-féodal. Mm-hmm. Bah, c'est les activistes féodales. Il a organisé des mouvements dans sa propre province.
Ouais. Donc là, on était quelle année à peu près, mouvements de Mao?
Mouvement de Mao, donc, c'est entre 1919 jusqu'à 1921.
Alors, Sun Yat-sen, on en a parlé tout à l'heure, il est encore, j'allais dire, célébré d'une certaine manière en Chine, puisque j'ai vu sa statue à Shanghai.
Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est lui, on considère, c'est le père de la Chine république. Ah, c'est lui qui a introduit certaines de pensées démocratiques en Chine, qui donnait le pouvoir au peuple. Ensuite, installer indépendance de la justice et indépendance administrative. Ensuite, donc, tout le monde a le droit de parler. Donc, la liberté de penser, la liberté de manifestation, la liberté de publier. Mm-hmm. C'est grâce à cette politique créée par Sun Yat-sen. C'est pourquoi donc, la partie communiste chinoise a pu vivre à Shanghai. Voilà.
Mm. Alors, donc, le parti communiste s'est développé, mais pas forcément sur le modèle soviétique.
Alors, c'est justement parce qu'au début... Staline a imposé la Chine, donc la partie communiste chinoise, et, c'est-à-dire fait un mouvement social dans le centre de ville. Parce que Staline, c'est-à-dire en russe, à l'époque, le plus puissant, c'est les classes ouvrières. Mm-hmm. Par contre, en Chine...
C'est les paysans.
C'est les paysans, voilà. Donc, on n'a pas réussi. Et il y a quelques dirigeants chinois, l'ancienne, par exemple Zhou Enlai, et même Liu Shaoqi, ce sont des gens qui travaillaient en ville, qui ont envie de lancer un mouvement social des ouvriers, c'est-à-dire suivre la politique soviétique. Par contre, on a tous pas réussi, un échec. Donc Mao Zedong, qui souhaitait repartir à la campagne, c'est-à-dire donc, d'abord réformer le système de terre.
Alors, pour réussir à réformer, il fallait des militants, des personnes qui allaient voir les paysans pour les convaincre que le Parti communiste était, et le maoïsme qui a suivi, hein, c'était forcément la meilleure voie de transformer la société.
Bien sûr, parce que la base de la Chine à l'époque, quand même, donc c'est les pauvretés, c'est les pauvres. Pauvres à la campagne.
On ne se rend pas compte maintenant de ce que c'était la pauvreté à cette époque-là. On peut dire qu'il y avait des gens qui mouraient de faim déjà.
Ah oui, bien sûr.
Et puis, aussi, selon les circonstances, la météo, les mauvaises récoltes, c'était catastrophique.
Bien sûr. Donc, à l'époque, je peux dire quasiment, c'est esclave. Ah, ça, c'est esclave.
Donc là, on est avant Mao. Hein.
Avant Mao, pendant Mao, c'est pareil à la campagne. Pareil, ouais. Oui, parce que, par exemple, les paysans, tu n'as pas de liberté d'être humain. Hein, donc, tu appartiens à une famille très riche. Voilà, ouais. Toute la vie, toute la vie.
Donc, avant la révolution, il y avait les propriétaires terriens, j'imagine, qui avaient des serfs, on va dire, des gens qui travaillent pour eux. Hein.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que ça a changé, la révolution et la République pour ces gens
Voilà. Et comme la pensée communiste chinoise qui est arrivée en Chine, Mao Zedong qui fait des mouvements, donc le slogan c'est très simple. Si vous participez au mouvement social communiste, vous avez tous à avoir des choses à manger. Voilà.
Mais ce que je veux dire, c'est la période où il y a eu la République, et jusqu'à Mao qui a commencé à militer, à aller vers ses paysans. Les paysans étaient toujours aussi malheureux qu'avant la Révolution ?
Oui, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est-à-dire entre 1919 jusqu'à 1920-21, c'est-à-dire pendant cette période. C'est Sun Yat-sen qui organisait la partie de nationalistes en Chine. Bon, à l'époque, donc, il y a deux gouvernements. Le premier, Sun Yat-sen, qui souhaitait organiser à Canton. À Canton, et après Sun Yat-sen qui est élu, donc le premier ministre de la République de Chine, voilà, à l'époque. Par contre, il y a d'autres à Nankin qui comptent Sun Yat-sen. Donc, dans ces cas-là, c'est plutôt Yuan Shikai. Yuan Shikai, à l'époque, donc, avec Sun Yat-sen, c'est les deux partis. Sun Yat-sen qui vient de peuple, vient des étrangers, des élites. Des élites étrangères bourgeoises. Et Yuan Shikai, qui vient de... c'est-à-dire, parce que lui, c'est déjà un grand ministre dans le dynastie Qin. Donc, il représente, c'est-à-dire, donc, les gens, pouvoir. Donc, bien sûr, il y a certains départs, des disputés entre les deux partis. Finalement, pendant cette période, Sun Yat-sen, qui était battu par Yuan Shikai, c'est Yuan Shikai qui est devenu, on dit, c'est le leader de la Chine à l'époque.
Et après, la Chine nationaliste, on peut dire ça
alors,
comme ça.
C'est pas encore, nationaliste. Yuan Shikai qui peut être, par contre, Yuan Shikai qui a envie de restaurer l'empereur. Donc Yuan Shikai qui, on dit, c'est prôner tous les fruits créés par Sun Yat-sen a créé sa propre. On dit c'est le royaume. Donc Yuan Shikai qui est devenu l'empereur, ça dure même pas 80 jours et puis c'est fini parce que le peuple chinois, surtout les élites chinoises, les étudiants veulent plus retourner en arrière.
Alors justement, ces étudiants, certains d'entre eux ont fait des études à l'étranger, notamment en France.
Absolument. Donc, à l'époque,
ça les a un peu nourris d'esprit révolutionnaire.
Alors, donc, il y a deux vagues. Donc, on dit que c'est la première vague, c'est la fin du 19e siècle. Il y a certains étudiants qui sont envoyés par dynastie Qin, envoyés en Europe, au Japon. Donc, la plupart, ils sont allés au Japon, comme Sun Yat-sen qui était au Japon, Chiang Kai-shek au Japon. Bon, ça, c'est la première vague. La deuxième vague, c'est Sun Yat-sen qui a pris le pouvoir. Et après, on a créé, ça s'appelle République c'est-à-dire Hui biblique de Chine. Mm-hmm. Dans la Hui biblique de Chine, on utilise beaucoup de l'aide, financement de l'étranger, envoyer des étudiants en Europe, mm-hmm. par exemple, à partir de 1920, 21, 23, 24. Ces quatre ans, la Chine a envoyé beaucoup d'étudiants en Europe. Mm-hmm. Deng Xiaoping, mm-hmm. Zhou Enlai, mm-hmm. Bon, tous les anciens dirigeants chinois, Li Fuchun, Chen Yi, et Zhao Shiyan, etc., mm-hmm. ils sont tous venus mm-hmm. en France.
En France, c'était surtout à Lyon, non?
Alors, c'est au début qu'il a reçu à Lyon. Mm-hmm. À Lyon, donc, on a créé, ça s'appelle l'Université franco-chinoise.
Ah ouais.
Il est encore là, oui.
Ouais,
il est
ouais.
encore aujourd'hui à Lyon
ouais, ouais.
et à Pékin.
Incroyable.
Il y a les deux.
Ouais.
Au niveau de l'architecture, c'est vraiment c'est très, très joli. Ouais. Mm. C'est leur néo-Haussmann. Voilà. Néo... Alors, ils sont venus à Lyon. Mm. Par contre, ce sont des jeunes, il faut savoir, ce sont des jeunes, les enfants, les fils de bourgeois. Mm. Donc, ils ne supportaient plus la vie si difficile à Lyon. Ensuite, les bourses. Les bourses sont déjà coupées.
Coupées,
oui. Coupées, et après, ils n'ont plus l'argent. Par exemple, Deng Xiaoping, qui reste quelques jours à Lyon, à la campagne, et après, il a remonté à Paris et joué dans l'usine de Renault.
Mm-hmm.
Voilà.
Mais là, il a peut-être connu des syndicalistes à Renault.
Alors, à l'époque, il faut savoir, tous les Chinois, dans sa tête, c'est vide. Il n'y connaît pas le mouvement ouvriers en France. Par contre, Zhou Enlai, à l'époque, déjà, on dit, c'est un homme politique qui est dirigé par Moscou. Donc, Zhou Enlai a certains de financements. Mm-hmm. Donc, Zhou Enlai qui recrutait Deng Xiaoping en tant qu'un ouvrier dans sa propre atelier, l'imprimerie, parce qu'il faut imprimer des manuels, des affiches.
Et ça, c'est où, là, l'imprimerie de...
Et c'est à Paris.
Ouais.
À Paris, aujourd'hui, peut-être, donc, c'est le 13e. C'est le 13e arrondissement. Il y a une rue, 1979, qui a inauguré par l'ancien président chinois,
ah oui.
après Mao, s'appelle Hua Guofeng, qui est venu à Paris, et qui est inauguré, donc c'est le lieu de la résidence de Zhou Enlai.
Ah oui.
Donc Zhou Enlai, dans sa propre résidence, crée un petit atelier, et l'imprimerie. Voilà.
Ouais. Voilà, donc une part de... Il faut dire que quand on dit communiste, la commune, ça a été français quand même avant. Hein?
Tout à fait, absolument. Donc communiste, c'est un mot pour les Chinois, n'est pas très inconnu, parce que les Chinois y connaissent, parce que commune de Paris.
Oui.
Voilà. C'est pourquoi Mao, dans les années 58, Mao Zedong a installé de nouveau commune du peuple en Chine partout. Voilà.
Mmh.
Donc, envie de restaurer certaines de pensées de communes, communistes. Mais moi, je pense que donc, il n'a pas réussi. C'est un essai. C'est en pratique pensée communiste. Mais par contre, il a eu un très grand échec. Voilà.
Mmh. Est-ce qu'on peut dire que Mao, pour créer le Parti communiste et surtout le faire vivre, a été imaginatif pour justement ne pas utiliser le modèle ou les modèles qu'il avait sous les yeux, parce qu'il ne pouvait pas fonctionner. Est-ce qu'il a eu vraiment des idées intéressantes et originales?
Alors, il faut savoir, Mao, il n'est jamais quitté la Chine à l'étranger quand il était jeune. Donc, dans la pensée de Mao, quasiment, ce sont des pensées féodales. Bien sûr, il a reçu certaines idées, hein, de manuels, communisme. Et de toute façon, à l'époque, en Chine, au sein du Parti communiste chinois, il y a deux courants. Il y a un premier courant vient de Staline, Moscou, qui 100% recopiait le mouvement social des ouvriers soviétiques en Chine. Va créer, s'appelle le Parti communiste bolchevique. Voilà.
Mm-hmm.
Par contre, d'autres courants, ce sont des Mao. Mao, il ne connaît pas le mouvement de la ville, parce que Mao, jamais vivre dans la ville. Mao, c'est toujours à la campagne.
Mm.
Donc Mao, dans ce cas-là, il a reculé à la campagne. Mm. Donc Mao, dans sa pensée, c'est plutôt, pour moi, donc c'est plutôt féodal. Il n'y a pas vraiment communisme. Vous voyez, donc, dans l'histoire, Mao Zedong jusqu'à 1942. Staline jamais reconnu sa stature. Staline toujours envoyé un représentant de troisième mouvement communiste international à Yan'an, dans le Parti communiste chinois, pour diriger. Staline jamais considéré Mao Zedong, c'est un leader du parti. Donc Mao Zedong, c'est jusqu'à 1945. On a créé un congrès du Parti communiste chinois très important dans l'histoire communiste chinoise. Donc là, Mao Zedong en utilisant, soi-disant, la théorie marxisme et la pratique de l'histoire chinoise en associant.
Forcément, il fallait bien qu'il s'appuie sur les deux pour réussir. Qu'est-ce qui a fait que son mouvement a pris de l'ampleur et a séduit une grande partie de la population, pas seulement rurale, mais aussi peut-être après les villes?
Voilà. Parce qu'à l'époque, donc, toute la ville occupée par Chiang Kai-shek, Mao Zedong, avec son troupe, l'armée rouge chinoise, qui reculait à la campagne. Donc Mao Zedong, en utilisant sa propre pensée, s'appelle maoïsme. Le maoïsme vient paru, c'est 1945, donc lancé par son meilleur copain, Liu Shaoqi, phénomène qui a battu par Mao Zedong aussi. Voilà. Donc Mao Zedong utilise sa propre pensée, parce que Mao Zedong il pense que sa propre pensée adaptée correspond à la réalité chinoise.
Alors, on pense souvent que la pensée de Mao est imprimée, écrite dans le petit livre rouge. C'est ça l'origine de ce qui a été développé?
Oui, bien sûr. Bon, ça, c'est à longue l'histoire. Hein, donc, à partir de 1945, quand la pensée de maoïsme établie au sein du Parti communiste chinoise, de plus en plus développée, et Mao, de plus en plus devenu un roi, un véritable empereur. Voilà.
Donc c'est vrai que, bon, on va dire empereur, c'est jusque-là le seul modèle connu en Chine.
Absolument. Je pense que donc, c'est pourquoi donc, j'ai toujours réfléchi. La pensée communiste chinoise, c'est très difficile à implanter en Chine. Quand on regarde dans l'histoire Karl Marx, qui a créé le premier mouvement. Donc, ce sont des classes ouvrières. Et après, qui passèrent Léline. Léline, donc, qui a battu tous les propriétaires à la campagne. Jusqu'à le troisième mouvement, créé par Staline, donc, et battu tous les capitalistes. En Chine, quand même, à l'époque, on a très peu de développé industriel. On n'a pas beaucoup de capitalistes. On a plutôt, il y a petits, on dit, c'est les bourgeois à la campagne. Donc, la pensée communiste chinoise qui est installée en Chine, plutôt contre le bourgeois propriétaire. C'est pourquoi, donc, le propriétaire, c'est un thème très sensible. Jusqu'à aujourd'hui, et on n'a pas pu bien régler le thème propriétaire.
Donc, Mao, à un moment donné, s'est retrouvé confronté à un concurrent qui pensait gagner hein, et qui a fini par s'exiler avec les personnes qui l'ont suivi à Taïwan.
Alors, oui. Mao, donc, de toute façon, quand on parlait de la Chine continentale et la Chine de Taïwan, généralement, politiquement, c'est les deux entités. Avant 1949, le gouvernement local, c'est la République de Chine, dirigée par Chiang Kai-shek.
Oui.
Et après, il y a une guerre à l'intérieur de la Chine. On dit que c'est la guerre civile.
Oui.
La guerre civile, finalement, c'est Mao Zedong repousser Chiang Kai-shek vers Taïwan.
Et entre deux, on peut dire aussi qu'il y a eu un front uni de ces deux groupes. Quand les Japonais ont occupé la Chine.
Oui, donc c'est 1936. Alors, donc, quand Japonais qui arrive ici, Chiang Kai-shek, à l'époque, dans sa première stratégie, c'est pour détruire le communisme. Et après, pour contre Japonais. Finalement, par certains de l'événement, coïncidence, Voilà. Donc, c'est obligatoire. Donc, les communistes chinois avec le parti nationaliste s'est réuni. De toute façon, dans l'histoire, ils ont déjà deux réunis. Mmh. Ah, donc, le premier réuni dans les années 20. Mmh. Dans les années 20, donc, c'est Sun Yat-sen qui était à Moscou, rencontré Staline. Et après, il a trouvé le modèle soviétique. Ça peut être introduit en Chine. Donc, dans ce cas-là, ils ont coopéré avec la parti et communiste. Et Mao Zedong, vous savez, Mao Zedong, il était considéré comme le ministre, on dit c'est le ministre de propagande dans la commission nationaliste. Et Zhou Enlai, qui est dans leur, l'école militaire de Huangpu Junxiao, militaire, s'occupe d'un poste important de politique. Donc à l'époque, il y a beaucoup de communistes qui joignent dans l'école militaire, ça s'appelle Huangpu.
Donc, Mao Tse-tung, à un moment donné, était complètement opposé donc, à Chiang Kai-shek. Hein, et puis, il y a eu ce fameux incident de Xi'an qu'on peut voir encore. Enfin, l'espace est présenté hein, au public. Hein, pour, voilà, c'est là que ça a basculé un peu.
Oui, c'est-à-dire, donc, 35-36, la politique de Chiang Kai-shek, d'abord, c'est pour nettoyer le territoire chinois. Parce que Chiang Kai-shek a une stratégie politique, c'est-à-dire donc, si je contre les animés viennent de l'extérieur, d'abord je nettoyais l'intérieur. Et à l'intérieur, et les petits soucis, c'est communiste chinois, c'est pourquoi Chiang Kai-shek a envie de d'abord nettoyer le communisme. Donc il demande une troupe nord-est de la Chine, dirigé par Zhang Xueliang, qui essayait d'aller à Yan'an pour nettoyer les communistes. Par contre, Zhang Xueliang, donc, à l'époque, qui a reçu certaines de l'idée communiste chinoise, donc Zhang Xueliang, d'après Chiang Kai-shek, c'est trahir. Mm-hmm. Trahir donc, Chiang Kai-shek, voilà.
Alors, je suis allé à Yan'an, hein, et là, c'est la base stratégique de Mao, ses troupes. Enfin, c'est un village militaire, on va dire, à l'époque, hein, et qui a permis de construire les plans pour la longue marche, etc.
Voilà. Yan'an, c'est le lieu terminus de grand longue marche. Parce que Mao Zedong, après l'échec de mouvement social, donc, il est parti à Jingangshan. Et après, il fait un long, on dit, transfert stratégique, on peut dire ça. Il est parti à Fujian. Ah. Et après, jusqu'à Sichuan, dans le sud de Sichuan, jusqu'à passe par la région tibétaine. Et après, il arrive donc à Yan'an. Yan'an, à l'époque, c'est la seule lieu qui est éloignée du centre de la ville. Et à l'époque, on a créé déjà un gouvernement soviétique. Le gouvernement soviétique, à l'époque, dirigé par le père du président actuel, Xi Zhongxun. Xi Zhongxun, c'est un jeune président du gouvernement soviétique à Yan'an. Mm.
Voilà. Alors c'est drôle, Yan'an, parce qu'il y a des espaces dans la roche, hein, dans un genre de montagne, hein, c'est troglodyte, on appelle ça les habitations, et donc ils avaient, c'est marqué hein, quand on visite, là c'était un tel, un tel, un tel, enfin on voit, c'est très personnalisé quand on visite le lieu.
Oui, c'est pour ça donc que quand Mao qui arrive à Yan'an, il est content, parce que là-bas c'est déjà, il y a une base soviétique. Donc Mao, avec son troupe, s'appelle le numéro 1. Numéro 1, troupe qui arrive ici, et après qui est devenu base de mouvement, de base de commandement, de base de formation, futur communisme chinoise. Voilà. Donc bien sûr, parce que géographiquement, là-bas c'est tellement pauvre, très très pauvre. Et donc il n'y a pas de loup. C'est pourquoi donc ils ont creusé dans le, on dit c'est dans le petit mont, avoir donc une petite l'espace pour dormir, pour vivre. Mm. Ça s'appelle, en chinois, ça s'appelle Yaodong.
Donc quand on se rend compte de la stratégie de Mao, au départ, on a peine à imaginer que ça puisse fonctionner, d'arriver à attirer, enfin, à convaincre des troupes qui sont renforcées au fil de sa longue marche.
Oui. Sur le, au fil de longue marche, bien sûr, il y a beaucoup de, on dit, accidents. Mmh. Accidents, donc, comme tout à l'heure, j'ai dit, il y a deux courants. Il y a un courant qui suivait soviétique. Il y a un courant, c'est Mao. Mao, donc, c'est quoi? Donc, c'est 100% chinois. Donc, il y a des pas, il y a des se battre entre les deux. Finalement, donc, jusqu'à Zun Yi, donc à Sichuan, Zun Yi, c'est un, on dit c'est le tournant de l'armée chinoise. C'est là que Mao Zedong a dominé l'armée chinoise. Parce qu'il faut savoir, dans le Parti communiste chinois, l'armée, c'est très important. L'armée dirigeait la partie. C'est ça, l'armée qui décidait la partie. Donc comme Mao Zedong qui a pris le pouvoir dominant sur l'armée rouge chinoise. Donc, dans ce cas-là, et après, Mao Zedong, avec sa propre politique, sa propre pensée, petit à petit, établir sa propre notoriété, et puis aussi dictateur. Voilà. Mmh.
Donc, il a su convaincre, alors, de manière large, on va dire, hein, il a trouvé plusieurs façons de faire pour convaincre, hein, et il a fini par s'imposer face à son rival. Et comme c'était la République de Chine, en fait, quand ses ennemis sont partis à Taïwan, c'est pour ça qu'on a appelé Formose à l'époque la République ouais. de Chine après à Taïwan, ouais, ouais. Et que Mao, lui, il a créé, enfin, la République populaire de Chine.
Oui, donc 1949, voilà, quand Mao Zedong qui repoussait Chiang Kai-shek vers l'île Taïwan, donc dans la Chine continentale, on a établi, donc politiquement, ça s'appelle la République populaire de Chine.
La République populaire
voilà.
de Chine.
Par contre, la Chine n'est pas encore unie, parce que Taïwan, il y a un gouvernement. Gouvernement, donc, s'appelle République de Chine, dirigé par Chiang Kai-shek.
Oui. Donc, Taïwan, à l'époque, est-ce qu'il y avait déjà des habitants sur
l'île? Ah oui, oui, il y a des habitants, oui.
Qui ouais. n'étaient pas chinois au départ.
Oh, c'est tout, c'est chinois.
Quand même.
Taïwan, donc, depuis la dynastie Ming, Ming, c'est-à-dire, c'est déjà appartient à la dynastie Ming. D'accord. Donc, c'est le Ming qui a envoyé troupes développées. À Taïwan. Aujourd'hui, quand vous allez à Taïwan, vous pouvez voir donc, beaucoup de maisons architecturement. Donc, ça, c'est dynastie Ming. Donc, le plus connu s'appelle Zhen Chenggong.
Alors, c'est vrai qu'à Taïwan, sont préservées des œuvres chinoises assez intéressantes, hein, qui ont résisté à ces moments où beaucoup d'œuvres ont été détruites en Chine continentale.
Ben oui, c'est-à-dire 48, quand Chiang Kai-shek qui pensait qu'il ne pourrait plus rester en Chine, donc il a invité, c'était interdit, il a invité le grand musée de Chine, tous les chefs d'œuvre sont partis à Taïwan. Donc aujourd'hui, si vous voulez voir le vrai œuvre chinois, c'est à Taïwan. Et 1999, à Paris, il y a une exposition organisée par le ministère des Affaires étrangères français et aussi de la culture française et Taïwan. Donc, c'est la première fois que j'ai pu voir le vrai chef d'œuvre dans l'histoire chinoise, dans le Grand Palais.
Il voilà. y a le Grand Rouleau aussi, là.
Ah oui, oui, donc, ça, donc moi j'ai vu, donc tous les Chinois, ils connaissent, s'appelle Chi Pi Fu, qui est écrit par Su Shi. Su Shi, c'est quelqu'un de ma ville, donc c'est la première fois. Ensuite, Dynastie Yuan. Yuan, c'est Mongolie qui occupait la Chine continentale à l'époque. Bon, il y a beaucoup de tableaux, de poèmes, mais je ne connais pas en Chine. Donc, c'est la première fois, c'est marrant, hein, en tant qu'un Chinois, regarde, c'est l'histoire, c'est en France, à Paris.
Ben oui. En fait, bon, il n'y avait pas que la Chine, hein, mais il y a beaucoup de pays où les œuvres ont été un peu diffusées, réparties. Et maintenant, d'ailleurs, les États les réclament.
Alors, non. C'est-à-dire, donc, sauf un jour, c'est la Chine et continentale et la Chine, l'île Taïwan, s'est réunie, ça peut être, c'est tous les objets, ça peut être qui peut être. Exposé, soit à Shanghai, soit à Pékin, parce que ça c'est important. Ça c'est pour les Chinois, jeunes Chinois, connaît son propre histoire. C'est intéressant parce que dans notre manuel, à l'école, il y a beaucoup de poèmes. On ne connaît pas les poèmes, aujourd'hui c'est vous. Et après, il y a certains de tableaux chinois, c'est très très joli, très connu, mais on ne connaît pas. Maintenant, ils sont tous se trouvent à Taïwan.
Voilà. Je ne sais pas si en Corée du Sud, il y a des œuvres chinoises intéressantes.
Alors, de toute façon, quand on parlait de la Chine, je crois que c'est un concept abstrait. Je pense qu'à l'époque, à l'entour de la Chine, on peut dire c'est la Chine. C'est la Chine parce que ce sont des pays et tu pensais. Et confucianisme. Oui. Dans le pays confucianisme, je pense que c'est tous, c'est la Chine.
D'ailleurs, il y a des Coréens qui viennent à Xi'an, qui ont fait construire un temple, etc., qui reviennent en pèlerinage à Xi'an.
Oui, bien sûr. Regarde donc le pénitentiaire de mon père à Shandong. Shandong, donc, c'est clair, donc, il y a beaucoup de gens qui partent à Corée du Sud. Vous savez, donc, coréenne, à partir de dynastie Tang, c'est-à-dire 6e siècle après Jésus-Christ, l'empereur de dynastie Tang, c'est le coréenne. C'est le coréenne à l'époque qui a dirigé l'empire de la Chine. Vous savez, donc, il n'y a pas vraiment aujourd'hui, il y a Corée du Sud, etc. C'est aujourd'hui on a utilisé le thème. Par contre, avant, c'est le même royaume. Ouais.
Alors, c'est vrai que la notion de frontière est assez floue. Je parle de ça d'il y a 500 ans ou pas en Chine. Hein, et qu'il y a des zones où on ne se posait pas forcément la question de savoir où ça se terminait. C'était comme ça, c'était là.
C'est naturel, c'est-à-dire à l'époque donc, qu'il y a certains de moyens, puissance, technique. Vous pouvez aller là-bas, il n'y a personne. Donc, si vous installez là-bas, créez une maison, voilà, et après, ce terre, ce territoire appartient. De toute façon, en Chine, il y a un mot qui s'appelle Pu Tian Zhi Xia, Mo Fei Wang Tu. C'est-à-dire, l'empereur chinois est considéré le monde appartient à l'empereur. Donc, c'est ça. C'est...
Alors, c'est vrai que ces empereurs en Chine ont parfois été deux, même en Chine, peut-être. Et puis, sont venus d'autres pays. Par exemple, la Mongolie, à un moment donné, elle a, on va dire, vaincu la Chine en dessous de la Mongolie, en fait, toute cette partie-là. Et le chef mongol, Genghis Khan.
S'est
installé. Pour dominer une grande partie de la Chine.
Ah oui, bien sûr. Bon, de toute façon, quand on voit l'histoire chinoise, il est clair, donc, on est sans arrêt annexé, combat, il n'y a pas unir, séparer. C'est quasiment, c'est leur anti, c'est le tourner, répéter. Et après, ce qui réussit, crée sa propre. L'empire crée sa propre nom de dynastie. Ouais.
Mais ce qui est curieux, enfin drôle même, cocasse en tout cas, hein, c'est que ces empereurs venus de l'étranger, enfin la Mongolie par exemple, hein, se sont sinisés, quoi. Ils sont devenus de culture chinoise parce qu'ils ont dû gérer un appareil complet qui est réalisé par des Chinois. Enfin, tous les gens qui travaillent pour l'empereur, ils sont chinois. Donc il faut bien admettre tout ça. Oui. Et peut-être que ça peut expliquer aussi cette forme d'irrigation par quel que soit, bon, que ce soit l'empereur ou après le Parti communiste, hein, il avait besoin de s'appuyer sur un réseau énorme. Et encore maintenant, sans réseau, on va dire que le Parti communiste, c'est un petit peu... Alors, je vais dire le squelette, mais pas que le squelette, c'est les nerfs, tout le système lymphatique, enfin, tout ça, le Parti communiste amène ça à un corps qui est la Chine.
Vous avez raison, je pense qu'il faut dire clairement aujourd'hui, la partie communiste chinoise, ça n'a rien à voir avec la partie communiste étrangère. Par exemple, PCF en France, PC belge, et c'est complètement différent. Et en Chine, il faut savoir quand même, on a presque 3500 ans de l'histoire féodale jusqu'à 1911, qui terminèrent dynastie Qin. Très longtemps, les Chinois sont formés par la pensée féodale confucianisme. Donc, les Chinois s'est difficilement changé et transformé leur propre pensée. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, la partie communiste chinoise, aujourd'hui, ce n'est pas du tout communiste. Karl Marx, Lénine, Staline, c'est quasiment c'est 100% chinois. Simplement, on utilise le nom communisme. Finalement, ce n'est pas le même sens.
Alors, à un moment donné, le confucianisme était rejeté par les communistes chinois et maintenant, il est revenu à la surface parce qu'en fait, il donne un certain socle à la société et puis donne une certaine organisation, le respect des anciens, etc. Ça revient un petit peu à la mode, le confucianisme.
Ah oui, donc, ça c'est typique chinois, hein, c'est typique chinois. Regarde, donc je n'ai jamais vu pour un Français, pour les Français qui regardaient, qui utilisent la pensée Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, encore qui parlaient aujourd'hui. Bon, ça c'est les typiques chinois. La Chine, depuis longtemps, je peux dire c'est un royaume fermé, très fermé. Les Chinois, c'est difficilement faire des échanges avec l'extérieur. Bon, dans l'histoire, bien sûr, on a la route de la soie. La route de la soie, la route du thé, et puis dans la dynamique, avec 70 000 personnes, avec le bateau équivalent comme porte-avions dans le monde. Et là, c'est uniquement c'est manifesté que je suis puissant, etc. Oui. Donc, la pensée féodale, c'est basé sur le confucianisme qui est restauré dynastie Han. Donc c'est après Qin, après Jésus-Christ 221. Donc on utilise la pensée confucianisme pour diriger le peuple chinois. Du coup, donc, le féodal confucianisme, jusqu'à c'est-à-dire donc, fin 19e siècle, Mao Zedong, à l'époque qui est n'aime pas toujours ces types de pensées qui ont envie de changer. Mais finalement, Mao Zedong, dans sa pratique de la vie politique, de dirigeant, il a installé inconsciemment la pensée féodale, confucianisme. Malgré, pendant la période révolution culturelle, Mao Zedong qui lançait un mouvement lutte contre Confucius. Mais par contre, il est contre Confucius. Mais lui-même, devenir le véritable Confucius. Parce qu'il veut être l'empereur. Il veut être dictateur absolu. Il veut éliminer tous les gens qui comptent lui. Voilà.
Alors, le Parti communiste, c'est un grand parti. Hein. Il y a énormément d'adhérents. Et puis, c'est une vraie force, bien sûr, et une force d'irrigation aussi. On parlait de l'armée tout à l'heure. En fait, nous, quand on pense armée, on pense des gens qui vont se battre, etc. Les Chinois, leur armée n'a pas beaucoup servi à l'extérieur de la Chine. Hein. Par contre, elle a beaucoup servi à l'intérieur pour aider les populations quand il y avait des inondations, des tremblements de terre. D'où le côté un peu populaire de l'armée vis-à-vis du public.
Alors, l'armée chinoise, ça n'a rien à voir avec l'armée française ou européenne, etc. Oui. Parce que l'armée en Europe, c'est l'armée relativement indépendante. C'est l'armée qui ne touche pas la vie politique à l'intérieur. Donc l'armée française, par exemple, dirigée par le président, son rôle... quasiment, donc c'est pour protéger le territoire français. Dans certains cas, le terrorisme, donc on appelle l'armée participer contre le terrorisme à l'intérieur. Là. Par contre, l'armée chinoise, c'est un outil. C'est un outil, depuis longtemps, sert à l'empereur. Maintenant, il n'y a plus l'empereur, sert à la partie communiste chinoise. Mm-hmm. Donc, une partie... Et il pourrait, on dit, c'est protéger le territoire chinois, parce que la Chine, il y a une très longue frontière. Oui. Voilà. Par contre, comme c'est l'armée, c'est un outil, ça, pour l'empereur, pour le parti, bien sûr, en Chine, donc il y a certaines catastrophes naturelles, tremblements de terre, 2008 à Sichuan, ou bien certaines inondations sur Yangtze-Jiang, etc., l'armée qui vient. Je crois que l'armée vient ici, c'est pour établir une image. Mmh. Une image de parti communiste chinois, une image de l'empereur, une image de dirigeant chinois. Mmh. Et vous voyez
donc, en même temps, il faut qu'elle soit là parce qu'il y a des drames en Chine. On n'imagine pas, hein, vu la taille de la Chine, tous les problèmes des séismes, les tremblements de terre, les inondations. C'est très compliqué par rapport, par exemple, à une France qui est tranquille, on va dire, d'un point de vue géologique, etc. Là-bas, franchement, les événements se déchaînent, les éléments se déchaînent parfois.
Oui, donc quand on parlait ça, je pense que très regret, très malheureux, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une politique civile, c'est-à-dire que la partie communiste chinoise n'est pas pu créer, construire forte, puissante, gouvernement. Généralement, donc, ces types de séismes, d'inondations, on n'a pas besoin que l'armée vienne intervenir. Donc, il faut certains de la mairie, le gouvernement de la propre province, à son propre force, l'organisation, service, et pour gérer certains de l'événement. Malheureusement, donc, vous voyez, donc, quand on fait venir l'armée chinoise intervenir dans certains cas catastrophiques, c'est-à-dire, on est encore sous l'empereur. Mm. C'est l'empereur qui dirigeait tout. C'est l'empereur qui envoyait sa propre troupe, l'armée chinoise, pour aider le peuple. Mm.
Donc, moi, je vois ça aussi sous forme d'une certaine irrigation, montrer on est là, on s'occupe
voilà,
de
c'est
vous.
Ça, oui. Oui, c'est ça, c'est-à-dire l'empereur toujours près de vous. Voilà. Oui. Donc l'armée, qui, c'est symbole de l'empereur.
Peut-être aussi un savoir-faire au niveau national qui peut s'appliquer plus facilement après, parce qu'il y a peut-être plus de formation des gens de l'armée pour résoudre certains problèmes que les gens localement ne savent pas toujours gérer. Enfin, il y a de l'ingénierie beaucoup dans l'armée, hein.
Alors, oui, bien sûr, c'est très complexe. Moi, je pense pas c'est ça. Je pense que l'armée vienne dans certains cas catastrophiques, c'est pour la sécurité. C'est pour une garantir une assurance. Ouais. C'est garantir l'assurance, sécurité, vient de l'empereur, vient de partie communiste chinoise.
En fait, il y a un peu une mutualisation des moyens. L'armée fait partie des ressources mutualistes pour irriguer et puis aider et trouver des solutions où il y a des événements particuliers. C'est un peu ça.
Bien sûr, ça c'est aussi c'est le slogan du Parti communiste chinois. Donc l'armée vient du peuple. Donc l'armée vient du peuple. Donc c'est le peuple qui nourrit l'armée. Voilà, donc l'armée, ce sont des enfants du peuple. Voilà. Donc souvent on dit ça. Oui.
En même temps, c'est pas faux. Hein. Les gens qui sont dans l'armée, qui sont recrutés, sont des gens
bien sûr,
qui viennent
bien sûr.
D'où, de quel bon, type.
Moi, je pense que donc quand même, donc on a mélangé le concept, on a mélangé le fonctionnement, on a mélangé des qualités, des fonctions. Donc l'armée chinoise avec la société chinoise reste. Je pense que c'est les deux choses différentes. C'est-à-dire donc on est incapable de créer une société civile. On est incapable de créer une forte administration pour diriger, pour gérer toutes les problématiques.
Bon, c'est vrai qu'on j'allais dire, le monde ne s'est pas fait en un jour. On peut imaginer que tout est en évolution rapide. Chacun reconnaîtra quand même que la Chine évolue très vite.
Oui,
parfois, ça dérange beaucoup, d'ailleurs. Les pays qui l'ont critiqué sur ci, cela, maintenant, ils la critiquent parce qu'elle avance très vite dans certains domaines.
Je pense que ça, c'est aussi c'est la force des Chinois. Je pense que c'est la force des Chinois. Regarde, donc, quand on voit... le courant évolué du Parti communiste chinois, on a complètement dépassé la pensée, la théorie communisme. Regarde donc, Mao Zedong avant jamais permet aux intellectuels adhérer dans le Parti communiste chinois. Bon, peut-être il y a quelques-uns c'est déjà pensé très communiste. Bon, parce que Mao Zedong considérait les intellectuels considérés comme petits. Bourgeois, c'est le bourgeois, voilà. Donc, Mao Zedong n'aime pas ça. Par contre, après Mao, c'est Deng Xiaoping. Deng Xiaoping a envie de développer la Chine. Deng Xiaoping, il est parti venir quand il est jeune en France, et après il est venu aux États-Unis, etc. Il sait très bien, la technique, c'est très importante. Mm-hmm. Voilà. Donc, Deng Xiaoping qui fait venir Intello dans la partie. Donc, c'est déjà changé la théorie les cadres de parti. Après Deng Xiaoping, c'est Jiang Zemin. Jiang Zemin a encore développé la pensée théorique communisme chinoise. Il a permis aux capitalistes chinois de participer dans le Parti communiste chinois. Généralement, dans la théorie d'origine, on doit pâturer, nettoyer les capitalistes.
Donc, est-ce qu'on peut dire que le Parti communiste chinois est assez pragmatique?
C'est-à-dire tout à fait, absolument. Donc,
il s'adapte aux
circonstances. Donc, c'est le, voilà, c'est le, comme Deng Xiaoping a dit, soit...
Quelle soit la couleur du chat, vu qu'il attrape les souris.
Voilà, donc je pense que ça, c'est, oui, c'est pragmatisme. Quelquefois, on dit c'est aussi c'est opportuniste. Mais ce n'est pas une théorie durable. Ce n'est pas une théorie convaincue pour soi-même ou pour les autres. Et aujourd'hui, quand on voit le Parti communiste chinois, il y a beaucoup de riches, par exemple Ma Yun. Alibaba Ma Yun, il est communiste.
Bah, de toute façon,
il est parti communiste, je pense.
Mais est-ce qu'on peut être riche sans être communiste en Chine?
Bon, dans la théorie, généralement.
C'est difficile quand même.
Bon, non, dans la théorie. Dans la théorie, communisme.
Mais il y a quand même des réseaux et les gens qui sont riches ont intérêt à être dans ces réseaux quand même. Quand on voit les entreprises en Chine, souvent, il y a dans l'entreprise des représentants du Parti communiste. Donc, on ne peut pas imaginer une entreprise sans un contrôle, une présence forte.
Vous avez raison.
C'est comme ça.
Vous avez raison. Aujourd'hui, quasiment tous les riches, tous communistes. Tous communistes. Donc, c'est... Par exemple, un jeune, avant, il n'est pas communiste. Il a créé sa propre société. Il a gagné énormément de l'argent, très très vite. Les cellules communistes qui viennent faire adhérer dans le Parti communiste chinois. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la Chine complètement changée, et la couleur, la théorie communisme créée par Karl Marx, Lénine.
Donc si on parle actuellement du Parti communiste et de ses membres, on peut dire qu'en gros... Ils sont une réelle force intellectuelle, des gens compétents qui ont des connaissances, qui ont été sélectionnés dans le peuple d'une manière générale. On peut imaginer que ça peut évoluer vers toujours davantage de progrès et peut-être de cohérence.
Tout à fait. Il faut savoir donc, dans le Parti communiste chinois, quasiment ce sont des élites chinoises qui ont le droit et à la possibilité d'aller à la Parti communiste chinoise. Vous voyez, donc c'est ça, oui. Donc si vous êtes quelqu'un nul, ou bien, voilà, donc problème, pas diplôme, etc., impossible d'aller à la Parti communiste chinoise. Donc aujourd'hui, on a presque, on a dit, c'est 95 millions chinois membres du Parti communiste chinois, et quasiment sont diplômés. Ils sont compétents, voilà. sont élites.
Donc on se rend bien compte d'un potentiel incroyable. Après, voir comment ce potentiel agit en phase, par rapport à quelle directive, c'est encore autre chose.
Oui, malgré, ce sont des gens qui étudient pas mal, qui a diplômé très fort, qui est très riche, qui sait très bien les règles du marché, qui est venu à l'étranger. Le problème, au fond, dans leur tête, confucianisme profondément implanté dans leur tête. Donc, il est soumis à l'empereur. Soumise à l'empereur, soumise la partie commission.
Ouais, voilà. En même temps, il y a quand même des courants différents dans le parti. Il n'y a qu'un seul parti en Chine, mais parti, ce parti, à l'intérieur, il y a des mouvements, il y a des courants. Et là, il va y avoir le congrès en octobre. Ce n'est pas par hasard, peut-être octobre. Hein, 1er octobre, c'est fêté aussi en Chine.
Voilà, c'est la fête nationale.
Et donc, peut-être justement que ce congrès est un moment qui met... ou qui renforce peut-être le pouvoir de, peut-être de Xi Jinping, puisqu'il sera sans doute candidat cette année, mais peut-être d'autres mouvements vont donner leur vision de la société chinoise à ce moment-là.
Voilà, donc ça c'est aussi c'est les particularités dans le Parti communiste chinois depuis la création, 1921. Toujours il y a des luttes contre pouvoir, toujours il y a des luttes pouvoir. À l'intérieur, qui va diriger la partie? Parce que qui est secrétaire général de la partie? Qui sera? On dit c'est le président, c'est l'empereur. Voilà. C'est eux qui dirigent l'armée. C'est pourquoi donc même la Chine, on a un parti unique. Par contre, dans le parti unique, à l'intérieur, s'appelle, il y a différents clans. Des clans. Donc il y a par exemple Dupont. Voilà. Dupont, c'est le membre. Il y a des Dupont communistes. Il y a Christophe, communiste. Il y a Michel, communiste. Ils sont tous communistes dans le même coquille. Par contre, à l'intérieur, il y a différents clans qui se battent. Le résultat de ce battre, c'est pour avoir pouvoir absolu. Quand, en Chine, quand on a pouvoir, on a des richesses. Automatiquement, on a tout.
Alors, là, il va être temps de conclure, mais on peut dire que Xi Jinping qui est là en ce moment... Hein, il a duré quand même plus qu'au départ. Ce n'était pas facile pour lui. Il avait une petite équipe qui s'est renforcée au fil du temps.
Alors, il faut savoir, ça c'est aussi c'est les particularités chinoises dans le parti politique. Et, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, peut-être on dit c'est incompétent, c'est nul, etc. Par contre, vous pouvez être soutenu par les autres. Comme ça, on est tous partagés le fruit du pouvoir. Donc, en octobre, sans doute, Xi Jinping va être réélu. Hein, donc, dans son troisième mandat, il est clair au sein du parti chinois, aujourd'hui, il y a d'autres clans qui ne souhaitent pas. Parce que, vous savez, donc, ce n'est pas purement comme en France, se battre le pouvoir dans leur groupe parti communiste chinois. Parce qu'en Chine, donc, quand on se bat le pouvoir signifie la richesse. Le pouvoir signifie le domaine dominant. Le pouvoir signifie quel domaine vous appartient. Soit c'est télécom, soit c'est SNCF, soit c'est l'eau, soit c'est nucléaire. Voilà, vous voyez, c'est ça. Oui.
Donc, effectivement, on peut dire qu'il y a des intérêts individuels et un intérêt collectif.
En Chine, c'est collectivisme. Ouais. Voilà, c'est ça, oui.
Mais je pense qu'on a bien avancé sur notre réflexion sur la Chine.
Oh, c'est très petit, hein, c'est très mais petit. Bon. Du coup, c'est pas facile de. Bon, ça, c'est important. On a donné une image pour que notre auditeur, auditrice française doit savoir. Communisme en Chine, communisme en France ou en Europe, c'est complètement différent. Ah, il ne faut pas considérer le Parti communiste chinois équivalent comme PCF. C'est pas tout pareil. C'est pas tout. Voilà.
Merci, Guo Gongquan.
Je vous en prie.
Voilà, l'émission de Chine se termine. On se retrouve le mois prochain, au mois d'août, le premier samedi, pour une autre émission d'une heure consacrée à la Chine. On verra peut-être, Gogan, quel thème on choisira. Hein.
Oui, on va parler de musée.
Ah oui, le musée du thé.
Ouais. Est-ce que vous avez 2 minutes
30 secondes.
30 secondes, d'accord. Donc, le musée du thé Chine à Lille, donc on va continuer à développer. Et je crois que donc c'est un musée indispensable pour notre vie citadine. C'est aussi pour attirer le tourisme alentour de l'île. Et LED aujourd'hui, et maintenant de plus en plus, fait partie de la vie quotidienne des individus. Et LED lié à la santé, c'est évidemment aujourd'hui.
Voilà, eh bien, on en reparlera puisqu'on suit ces étapes à chaque fois hein, pour voir si on avance
pour
cette construction d'un musée du thé chinois à Lille.
Ouais.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Vous écoutez Radio Campus, 106.6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Toutes nos émissions sont réécoutables dès l'heure qui suit sur le site campuslille.com pendant 8 semaines. Et bien sûr aussi l'émission Onde de Chine sur le site ondedechine.fr, vous la retrouverez assez vite également.